Tout de suite, des infos. Tout de suite, des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire Cannes 2021, nous irons à Yaoundé en début de journal pour savoir comment les étalons se sont réveillés après leur victoire hier face au Cap-Vert. Présumé projet de coup d'État au Burkina, 15 personnes interpellées, parmi elles, 3 ont été relaxées, a annoncé le Conseil des ministres d'hier. Élections municipales au Burkina, un nouveau report recommandé par le dialogue politique. Une nouvelle rencontre est prévue le 25 janvier pour acter la décision et choisir une nouvelle date. Et puis l'impact des sanctions de la CEDEAO sur le Mali, on en parle avec notre invité du jour. Il s'agit du journaliste malien Youssouf Camara. Il est le rédacteur en chef adjoint au journal L'Indépendant. Selon lui, les Bamakois préparent un grand rassemblement contre cette décision de la CEDEAO.
Omega Sport.
Direction Yaoundé au Cameroun en ouverture de journal et on retrouve notre envoyé spécial Bernabé Cabré. Bonjour Bernabé.
Bonjour Brigitte et bonjour aux auditeurs de Radio Omega.
Bernabé, au lendemain de la victoire contre le Cap-Vert, vous avez fait un tour à l'hôtel des étalons où vous avez vu des joueurs décontractés.
C'est le meilleur réveil des étalons depuis leur arrivée à Yaoundé. Au lendemain d'une victoire, on ne peut qu'être décontracté, qu'être content du devoir accompli hier soir sur la pelouse du stade de l'Embé de Yaoundé et cette victoire à 1-0 face à l'équipe du Cap-Vert. Ce matin, nous étions à l'hôtel des joueurs situé en plein cœur de Yaoundé. Ce sont en tout cas des joueurs contents et confiants pour la suite de la compétition avec qui nous avons échangé et des joueurs également qui espèrent récupérer des éléments absents lors de ce match d'hier et aussi du premier match contre le Cameroun. On pense à Bertrand Traoré, on pense à Soumaïla Ouattara, on pense à Saïdou Simpore et à Dango Ouattara. Le staff technique était encore au travail pour préparer ce match contre l'Éthiopie. Il n'y aura pas en tout cas de repos pour les étalons du Burkina Faso. C'est déjà lundi et c'est déjà arrivé. Il faut corriger rapidement les failles constatées hier et vous l'avez vu. La deuxième période des étalons n'était pas du tout à la hauteur des attentes. Il faut aussi analyser cette équipe éthiopienne qui certes a perdu 4-1 face au Cameroun mais n'a pas dit son dernier mot et qui ne va pas se déplacer à Bafoussam en victime résignée. Il faudra en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour bien sûr obtenir cette qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. En résumé, des joueurs confiants, des joueurs contents, un staff technique qui s'est remis au travail pour en tout cas continuer à donner le sourire au peuple burkinabé.
Merci Bernabé Cabré. Je rappelle que vous êtes notre envoyé, l'un de nos envoyés spéciaux à Yaoundé au Cameroun. Les étalons du Burkina, je le rappelle, se sont offerts et ont offert aux Burkinabés leur première victoire hier face au Cap-Vert 1-0. C'est le score à l'issue de cette deuxième sortie des Burkinabés. Les étalons affronteront l'Éthiopie le 17 janvier, c'est-à-dire lundi prochain. Et bien avant le match étalon requin bleu du Cap-Vert, le Cameroun a écarté l'Éthiopie 4-1 pour se qualifier en huitième de finale à Yaoundé. On a assisté à des scènes de joie dans les rues au coup de sifflet final. Bernabé Cabré.
scène de joie dans les rues de Yaoundé après la qualification des Lions Indomptables pour les huitièmes de finale de la CAN. Dans les taxis, véhicules personnels et les bars, les Camerounais ont célébré comme il se doit cette victoire 4-1 face à l'Éthiopie.
4-1, c'était même petit, 5-0. L'Antilope vient faire quoi dans la tanière du Lion? Ça se passe pas comment? Ils ont compris, non? Rendez-vous à la dernière équipe, non? On va manger maintenant un peu les gars du Cap Vert là. Rendez-vous jeudi, la semaine prochaine dimanche.
En tant que pays organisateur, je ne peux être que fier. Le match a été d'une très grande facture et tout le monde a été content. Il y a une impression que le monde entier a eu par rapport au premier match. Le monde entier a douté. Même certains Camerounais ont douté. Mais j'avoue qu'avec la haute facture de ce match, la CAN a vraiment commencé.
Ce succès porte la marque du capitaine camerounais Vincent Aboubakar, auteur de 2 buts en 2 minutes. Les Camerounais savent désormais sur qui compter.
Vincent Aboubakar, c'est le meilleur capitaine de tous les capitaines. C'est le meilleur. Après toi, c'est toi. Avant toi, c'est toi. Après toi, il n'y aura plus jamais l'homme. C'est le capitaine courage. Capitaine courage. Capitaine courage. Eh, Vincent Aboubakar. Non, j'appelle. Depuis 2017, tiens le brassage, tu le mérites.
Aboubakar Vincent Aboubakar. C'est un gars qui peut dire à ma soeur, ce qui peut dire à ma soeur qui l'épouse pour rien comme ça là, il n'y en a d'autres même pas. Voilà, il est fort, c'est l'homme du match, il est fort. On a aussi notre petit là, Choupo-Moting, il ne sort pas. Voilà nos capitaines, capitaine courage, yes.
Bernabé Capré Yaoundé, Radio Omega.
Et la CAN se poursuit au programme. Aujourd'hui, un alléchant Guinée-Sénégal à 13h, Malawi-Zimbabwe à 16h, Maroc-Comores à 16h également et Gabon-Ghana à 19h. Le projet de coup d'État présumé était à l'ordre du jour du Conseil des ministres hier jeudi. 15 personnes au total avaient été arrêtées, mais 3 ont été relaxées selon le ministre des Armées, le général Barthélémy Saint-Poré, qui appelle à la sérénité. Sur la tenue des élections municipales, le gouvernement s'en remet à la décision du dialogue politique. D'autres dossiers étaient également à l'ordre du jour et c'est Pierre Badelot qui nous en parle.
Le Conseil des ministres de ce 13 janvier s'est axé sur 4 points majeurs, tournant autour du présumé tentative de coup d'État, la stratégie de communication du gouvernement, la question de la tenue des élections municipales et la lutte contre la grippe aviaire présente au Burkina. Sur la question du présumé coup d'État, le point de la situation fait état de plusieurs arrestations. Le général Barthélémy Saint-Poré est revenu sur les faits au cours de ce Conseil des ministres.
Le ministère des Armées et des Anciens Combattants a présenté au Conseil des ministres une communication orale pour rendre compte d'une saisine du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui a conduit à des interpellations de militaires et de civils pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions de l'État. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquelles 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et 1 militaire. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête.
En dépit de la crise sécuritaire que traverse le Burkina, la nécessité de mise en place d'une bonne stratégie de communication est envisagée et le Conseil des ministres de ce 13 janvier a également examiné la question afin de trouver la meilleure stratégie. Al-Kassoum Maïga, porte-parole du gouvernement.
Au niveau du ministère en charge de la communication, nous avons donc examiné en Conseil des ministres les résultats d'une étude qui avait été engagée par ce ministère-là par rapport à la stratégie de communication gouvernementale. Nous avons donc examiné ce rapport-là et examiné les recommandations que le ministère a soumises à l'appréciation du Conseil des ministres. C'est la mise en place d'une cellule et d'un dispositif de communication en temps de crise. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir une telle organisation Donc une cellule sera mise en place qui va être activée à chaque fois que de besoin et le dispositif donc va être rodé pour qu'on ne soit pas pris en train de courir après l'information mais d'anticiper par rapport aux différentes situations.
La lutte contre l'épidémie des volailles, notamment la grippe aviaire détectée récemment au Burkina, a aussi fait objet d'examen en ce Conseil des ministres. Quant à la question de la tenue des élections municipales qui était prévue se tenir en mai 2022, le gouvernement s'en remet à la décision du dialogue politique. Une rencontre est d'ailleurs prévue le 25 janvier.
Et à propos des élections municipales, le report de plus en plus probable, ce nouveau report des municipales prévu en mai prochain a été recommandé par le comité de suivi des recommandations du dialogue politique lors d'une rencontre avec le ministre en charge des collectivités et la CENI. Une nouvelle rencontre est prévue le 25 janvier prochain pour acter la décision et choisir une nouvelle date. Les municipales avaient été reportées l'année dernière pour un an du fait notamment de la situation sécuritaire. Les mandats des conseillers municipaux avaient été également prorogés. Et changement à la tête de l'ASELC, Philippe Néry Coutant-Nion, inspecteur du Trésor, a été nommé hier en Conseil des ministres, contrôleur général de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Il remplace à ce poste Luc Marius Ibriga, qui est le nouveau contrôleur d'État. Réponse avec Régis Bonny.
Titulaire d'un Master of Business Administration en audit et contrôle de gestion, Philippe Néry Coutant-Nion est conseiller à la Cour des comptes du Burkina Faso. Juriste de formation, il est également doctorant en Business Administration en audit et contrôle de gestion. Auteur d'un livre publié en 2021 et qui traite de la problématique de la gestion des finances publiques intitulé « Finances publiques, le manuel du financier burkinabé », Philippe Néry Coutant-Nion est, depuis octobre 2019, chargé de cours en audit, délit et détection de la fraude au cycle master professionnel, gouvernance et développement de l'université professeur Joseph Kizerbo et à l'école nationale des régies financières. Philippe Néry Coutant-Nion succède ainsi à Luc Marius Ibriga qui a occupé le poste de contrôleur général d'État depuis décembre 2014.
Luc Marius Ibriga, dont le mandat est arrivé à terme. Et puis Adama Bellem, ingénieur du génie civil et infrastructure, a été démis de ses fonctions de directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin pour dysfonctionnement majeur dans la gestion et la coordination du projet ayant conduit à un impact négatif sur la qualité et les délais des travaux, a annoncé le Conseil des ministres. À présent, on parle de la situation au Mali qui alimente toujours les débats au Burkina. La COPABF, Coalition des Patriotes Africains, s'insurge et dénonce les sanctions de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina font un et les intérêts de la nation doivent primer sur les intérêts de la communauté, estiment les responsables de la coalition qui étaient face à la presse hier jeudi. Moumouni Yaro nous en dit plus.
La COPABF embouche la trompette des autorités maliennes face aux sanctions de la CEDEAO. Des sanctions illégitimes selon Roland Bayala, le porte-parole de la coalition.
Il n'y a aucune légitimité à travers la majorité des chefs d'État de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, parce qu'un peuple a décidé de prendre en main son destin, a décidé de refuser tout ce qu'on lui dicte, aujourd'hui on regroupe des chefs d'État dans une entité et on décide donc d'aller avec des sanctions contre ce peuple-là. Le Mali est dans son droit de faire ce que le peuple lui recommande. La transition également est dans son droit de donner le nombre d'années qu'elle veut pour pouvoir rétablir la sécurité au Mali. Pour ce qui concerne les chefs d'État, nous savons que c'est la France encore qui est derrière cela. Nous savons que parce que ça a commencé avec Emmanuel Macron, depuis un certain temps, qui a commencé à mettre la pression sur le peuple malien. Et c'est l'aboutissement effectivement de ces pressions sur le Mali-là que nous voyons aujourd'hui à travers ces sanctions de ces chefs d'État qui sont à la solde du pouvoir français.
La COPABF lance un ultimatum au président du Faso, Roch Kabore, pour se démarquer de ces sanctions avant le 22 janvier prochain. Faute de quoi, elle appelle les Burkinabés à descendre dans les rues. Car le Mali instable ou sous sanction, le Burkina en payera les frais. Roland Bayala.
Ils disent clairement au peuple burkinabé qu'il n'est pas derrière cette sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le peuple malien. Sans quoi, nous appelons effectivement le 22 matin à ce que toute la population burkinabé, tout le monde puisse se mobiliser derrière cette date-là. Nous allons faire une marche au niveau du Burkina Faso.
La Coupe ABF, fidèle à ses objectifs, appelle les peuples africains à l'union et à une synergie d'action face aux défis du moment.
Place à notre éditorial comme tous les vendredis. Aujourd'hui, Wizin Lui, où l'on décrit des sanctions suicidaires sur le Mali qui doit s'attendre à des jours très difficiles avec en face une CEDEAO en position de force et toujours en perte de crédibilité.
Les ponts sont cassés entre la junte au Mali et la CEDEAO. L'organisation sous-régionale voudrait mettre l'impertinent Assimi Goïta au pilori qu'elle ne s'y serait pas pris autrement. La batterie de sanctions enclenchée depuis les terres à Chantilly contre le pays de Soundiata Keïta ne laisse aucune chance à la junte de tenir debout. C'est la résultante d'un jeu de ping-pong entre l'homme fort de Bamako et les chefs d'État ouest africains. Un jeu de surenchère doublé de ruses dans lequel les locataires du palais de Koulouba à Bamako demandent grand pour gagner un bon morceau après avoir joué des prolongations de près d'un an. En demandant une transition de 5 ans, il se donne mine de rien 6 ans de règne, plus qu'un quinquennat constitutionnel. La CEDEAO a compris la manœuvre et a donc vite fait de siffler la fin de la partie et de quelle manière. Elle n'est pas allée du dos de la cuillère, cachant difficilement une envie de se venger, punissant au premier plan le peuple malien. En effet, celui qui va récolter les pots cassés, ce sera d'abord les Maliens, car les sanctions prises par le chef d'État d'Afrique de l'Ouest sont assez sévères, à la limite suicidaires pour les Maliens. Le Mali, déjà ébranlé par le terrorisme depuis près de 10 ans, doit faire face à une asphyxie économique doublée d'une menace d'intervention d'une force en attente de la CEDEAO. Affamer les Maliens, les amener à la révolte, intervenir militairement par la suite pour contraindre la junte à partir, si besoin est, un véritable boulevard pour les terroristes en préparation. Les plans de la CEDEAO sont assez clairs et sans équivoque. Un triple front, terrorisme, grogne sociale, intervention militaire de la CEDEAO, front duquel la CIMI sortira difficilement. Son peuple, par ricochet, cette force en attente. Qu'attend-elle d'ailleurs pour nettoyer la zone des trois frontières des groupes terroristes qui y pilulent? Nos princes ne sont pas encore réveillés. Disons qu'ils ne sont sensibles qu'à ce qui touche à leur trône, ni plus ni moins. Il fallait donc frapper pour stopper l'effet contagion du phénoménal Goïta, surtout que Conakry est fortement intéressé par les débats depuis le fleuve Djoliba. C'est bien de sanctionner celui qui ne donne pas l'exemple, mais quelle leçon Alassane Dramane Ouattara, par exemple, peut-il donner à Assimi Goïta, lui qui a tripatouillé la constitution de son pays? Incontestablement, la junte au pouvoir au Mali et la CEDEAO sont engagés dans un jeu de surenchère. Assimi Goïta, en demandant une transition de 5 ans, c'est bien que la pilule ne passera pas. La CEDEAO sait aussi que ces sanctions sont cruelles pour le Mali, consciente par ailleurs que Goïta n'est pas garçon à plier les chines facilement. En plaçant chacun la barre à un niveau très haut, chaque parti espère une concession de l'interlocuteur d'en face et sans doute que les prochains meetings de la CEDEAO verront chacun lâcher du lest.
L'invité du jour. L'invité du jour. L'invité de la rédaction est Youssouf Camara, journaliste malien, rédacteur en chef adjoint au journal L'Indépendant. Selon lui, les Bamakois préparent un grand rassemblement contre cette décision de la CEDEAO. Il évoque également la réaction des partis politiques, des commerçants par rapport à la fermeture des frontières, mais aussi comment les sanctions se font sentir au Mali. Youssouf Camara répond aux questions de Mariam Souma.
Bonjour Youssouf Camara.
Bonjour Mariam.
Comment les Bamakois ont accueilli les sanctions de la CEDEAO sur le Mali?
Je dirais que les Bamakois ont accueilli les sanctions de la CEDEAO avec stupéfaction, même si déjà il y avait des prémices annonciateurs et des sanctions. Et depuis l'avant-dernier sommet, ils avaient mis en garde les autorités de Bamako qui s'exposaient à des sanctions supplémentaires au cas où le chronogramme n'avait pas répondu à leurs attentes. Mais aujourd'hui, la décision a été prise, le peuple malien essaie d'y faire face avec détermination, mais aussi avec résilience. Donc, vous savez, le Mali, c'est un pays de croyance. Il fait face déjà à des épreuves. Donc, ce n'est que des épreuves supplémentaires que nous sommes appelés à faire face. Dans l'ensemble, les sanctions sont perçues comme une agression contre le pays. Et en des pareilles circonstances, ça crée plutôt un sentiment de défense de la patrie face à ces sanctions. Ce sentiment patriotique qui est en train de se développer auprès de la population qui s'apprête même à sortir massivement demain pour organiser un grand rassemblement et montrer à l'opinion internationale que le peuple reste uni face à l'adversité.
Et comment les partis politiques ont réagi face aux sanctions contre le Mali?
Dans l'ensemble, les partis politiques se sont alignés à l'analyse de la, globale de la population malienne. Donc, dans l'ensemble, les partis ont condamné les sanctions. Ils trouvent les sanctions disproportionnées par rapport à la situation déjà difficile du pays qui fait face à la crise sécuritaire et à la crise sanitaire. Donc, tout le monde trouve qu'ajouter des sanctions supplémentaires vraiment qui pénalisent surtout la population et non les dirigeants. C'est ça qui fait que même les partis politiques vraiment se sont, dans l'ensemble, prononcés en rapport à ces sanctions. Mais quand même, les partis ont aussi proposé aux autorités de revoir le chronogramme qu'ils ont annoncé. Parce que tout le monde est unanime que les 5 ans sont trop. Tout le monde est unanime aujourd'hui. Tous les partis politiques, que ce soit ceux qui soutiennent la transition ou que ce soit ceux qui sont contre la transition, tout le monde est unanime que les 5 ans sont trop. Donc les partis politiques ont dans l'ensemble proposé aux autorités vraiment de revenir à des meilleurs sentiments, de rétablir le dialogue avec la CEDEAO, de maintenir le Mali dans les jurons des organisations internationales et surtout de revoir le calendrier électoral et proposer vraiment un délai raisonnable. Certains ont parlé de 6 mois, d'autres ont parlé d'une année au maximum. Selon nos dernières informations, le gouvernement travaille sur un plan de sortie de crise. On espère qu'il y aura un chronogramme à l'issue de ces documents.
Comment réagissent les commerçants qui ne peuvent pas exporter leurs produits au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire et d'autres pays?
Bon, par rapport au commerce, comme vous le savez, le Mali c'est un pays de commerce. Il y a beaucoup de commerçants. Mais en général, le Mali exporte peu. Et dans la sous-région, le principal produit d'exportation reste le bétail. Et par rapport à ces sanctions de la CEDEAO, l'interprofession de la filière bétail s'est même montée au créneau. Ils ont fait un communiqué pour appeler tous les membres, tous les exportateurs de bétail vraiment à se conformer à la mesure de réciprocité des autorités maliennes en suspendant jusqu'à nouvel ordre les exportations du bétail malien sur pied. Donc à part ça, les autres commerçants, ceux qui font les petits commerçants entre les deux pays, attendent de voir comment va évoluer la situation. Dans l'ensemble quand même, les opérateurs économiques quand même se sont engagés vraiment à accompagner l'État, à rester vraiment fidèle aux engagements pris par l'État. Et les gros importateurs aussi ont décidé vraiment, de conformément à la demande de l'État malien, de se tourner vers les ports ouverts, notamment le port de Nouakchott, le port de Conakry, pour vraiment leurs importations. Et par rapport à ça, même il y a un gros opérateur économique qui a mis 500 camions à la disposition de l'État malien. Donc pour vraiment, éventuellement, s'il y a des stocks dans ces ports, vraiment pour aider l'État malien à acheminer ses marchandises.
Avec le gel des avoirs, la suspension des transactions financières et autres financements, comment ces sanctions-là se font ressentir par les populations maliennes? Je veux dire, est-ce que cela n'a pas créé des mouvements de foule dans les banques?
Non, pas forcément. Actuellement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas même de grandes affluences dans les banques. Les banques travaillent comme dans un moment ordinaire. Hein. La situation n'a pas grand changé. Même ce matin, j'ai fait le tour de certaines banques. Vraiment, dans l'ensemble, c'est toujours le travail quotidien qu'ils font. Il n'y a pas de grandes mouvement, de grands mouvements, il n'y a pas d'affluence particulière. Seulement, il faut retenir que, comme vous le savez, le Mali, ce n'est pas un pays où le taux de bancarisation est aussi élevé que ça, comparativement aux autres pays de la sous-région. Et le gros de la clientèle, ce sont les salariés, ensuite les opérateurs économiques en principe. Mais ce qui est sûr quand même, l'inquiétude est là.
Au Conseil des ministres du mercredi 12 janvier, il a été question de la création des nouveaux régiments, du détachement de génie militaire et des centres de formation et de commandement. Selon vous, quels seront les atouts de cette décision prise?
Comme vous le savez, les questions sécuritaires sont des questions un peu sensibles. Mais ce qui est quand même évident, c'est que le départ de Barkhane ou la réorganisation de Barkhane a créé un vide territoire malien. Et vous savez que le Mali, c'est un pays vaste et l'armée malienne n'a pas vraiment suffisamment de moyens pour occuper le territoire dans son ensemble. Donc maintenant, avec le départ de Barkhane, il y a des vides qui se sont créés dans beaucoup de localités. Donc maintenant, l'armée malienne essaie vraiment de s'adapter à la nouvelle donne, de mettre en place une stratégie organisationnelle pour mieux quadriller le terrain et faire face vraiment à la lutte contre le terrorisme et à l'insécurité grandissante dans plusieurs localités. Je crois que ces aménagements s'inscrivent dans cette dynamique pour vraiment assurer la montée en puissance de l'armée malienne et rendre plus efficace son opérationnalité sur le terrain et faire face vraiment aux vides créés par le départ des Barkhane ou la réorganisation des Barkhane.
Youssouf Camara, merci.
Merci à vous aussi.
Youssouf Camara, journaliste malien à l'Indépendant, répondait aux questions de Mariam Soma. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Bourema Maïga. Bon après-midi.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos. Tout de suite.